Parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel, un jour je prêchais, c'était sur je ne sais plus trop qui, et je voyais un homme qui me regardait chaque fois. Je ne savais pas qui s'appelait comme ça. C'est pas Daniel, c'était un autre. Félix. Voilà. Alors, Daniel chapitre 2, verset 1er, on va lire jusqu'au verset 30, ça vous va? C'est un peu fort, on baisse? Ouais, voilà. Allez, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent des songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Au roi, vis éternellement. » Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois. Il y a vraiment une mésentente entre eux. Hein. Alors ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Le Dieu de mes pères, je te glorifie. Et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, étaient montées des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Je stoppe volontairement la lecture ici et je vais vous parler d'un sujet particulier. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. On a une démonstration là. Bon, il aurait fallu continuer pour l'explication de la statue, etc. Mais déjà, j'entre dans le sujet en disant que le 14 avril 1865, c'est un fait réel. Ce matin-là, le président Abraham Lincoln s'est réuni avec ses conseillers à la Maison-Blanche. La guerre civile arrivait vers sa fin. Abraham Lincoln dit aux membres de son cabinet, « Ça fait plusieurs nuits que je fais le même rêve étrange. » Et il dit, « Dans ce rêve, j'ai l'image d'un bateau et il se dirige vers un rivage que l'on n'arrive pas à définir. » Il leur dit, « Ça fait plusieurs fois que je fais ce rêve et je ne sais pas ce qu'il signifie. » C'est cette même nuit que lui et sa femme, Madame Lincoln, ont assisté à une représentation au théâtre Ford. Et là, John Wilkes Booth lui tira dessus par derrière dans la tête. Il lui a infligé une blessure qui a été mortelle. Donc il est mort cette nuit-là. Le lendemain même, comme il l'avait vu en vision dans ce rêve, le bateau, c'est-à-dire la vie d'Abraham Lincoln, atteignait le rivage éternel. Il partait pour la patrie céleste. Alors ce rêve, bien sûr, avait une signification personnelle, mais également nationale, et puis éternelle. Amen. Puisqu'Abraham Lincoln est rentré dans l'éternité. Alors le rêve de Nebuchadnezzar, il y a 2600 ans, avait aussi une signification personnelle, nationale et éternelle. Puisqu'on va parler pas mal de ce roi, il faut que j'en dise quelques mots. C'était un grand roi babylonien, un des plus grands leaders de l'époque. En fait, il a été le premier leader mondial à conquérir tout le monde civilisé, y compris ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Italie, en passant par l'Égypte. Je ne sais pas si vous voyez les distances de ses frontières à lui. Il avait vraiment fait quelque chose de grand et de glorieux. Alors, il a bâti une belle ville appelée l'ancienne cité de Babylone. Ça vous dit quelque chose, Babylone ? Aujourd'hui, Babylone se trouve à 60 km de Bagdad, en Irak. Ce fut l'un des plus grands leaders de tous les temps. Savez-vous que Saddam Hussein, vous rappelez de Saddam Hussein, ça vous dit quelque chose ? Oui ? En Irak, il a déclaré être lui-même l'incarnation de Nebuchadnezzar. Alors, il y a quelques années, avant la guerre du Golfe, Saddam Hussein avait proclamé qu'il allait rebâtir l'ancienne Babylone, qu'il la restaurerait pour qu'elle devienne une puissance mondiale. Et comme elle l'était, bien sûr, alors, ce fut peut-être une de ces raisons pour lesquelles il va se retrouver en conflit avec tout le monde. Bon, aujourd'hui, on sait ce qu'il est arrivé donc à Saddam Hussein. En tout cas, voici Nebuchadnezzar. Et il est dit qu'il a eu un rêve. Le roi était perspicace, dépanné, comme on dit, de la dernière pluie. Il savait ce que valaient les autres en face de lui. Alors, il était perspicace. Il savait tester les gens, il connaissait. Et il savait que ses conseillers, quelque part, n'étaient pas vrais. Et il lui racontait des faussetés. Et il disait avoir des pouvoirs, mais lui, il en doutait de plus en plus. Vous savez, c'est quand on met quelqu'un à l'épreuve qu'on voit s'il est capable ou pas. Alors, il va avoir une approche particulière. Il ne va pas leur dire ce qu'il est arrivé. Il n'est pas arrivé en disant « Voilà, j'ai rêvé, je vois un bateau, etc. » Non, non, pas du tout. Il n'a rien dit. Hein. Il voulait que ce soit eux qui puissent le deviner. Et là, après, l'explication qu'il leur donnerait, celle-là, ce serait la bonne explication. Ce serait la vérité. Vous voyez ? Comme je dis, il était pané de la dernière pluie. Il savait hein, où il allait, où il voulait aller. Alors aujourd'hui, c'est pareil. Tous ces astrologues, cartomanciens, devins, etc., ils sont faux. Ils racontent des bobards. Puisque le seul qui a la science infuse, quant à l'au-delà, l'autre monde, c'est Dieu, mes amis. Il n'y a que lui. Lui, il sait tout. Il connaît le jour de ma naissance. Il a dit à Jérémie, dès le sein maternel, je te connaissais. Et il savait ce qu'allait devenir Jérémie, comme nous aujourd'hui, comme toi, comme chacun d'entre nous. Il sait où nous allons. Et il nous a suivis jusqu'au moment où il nous a rencontrés. C'était le moment, c'était le temps de Dieu pour que nous puissions réaliser que Dieu nous aimait et qu'il avait des plans et des projets pour notre vie. Amen. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a des politiciens, il y a des sportifs, il y a des sélectionneurs nationaux eh bien, qui, justement, consultent des astrologues. Eh oui, il faut le savoir. Eh oui. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment Daniel, lui, a été tiré d'affaire suite justement à la condamnation à mort qui avait été prononcée, la sentence était là, hein, surtout les sages de Babylone. Voilà. Alors, Daniel a la possibilité, là, de laisser mourir tous les sages de Babylone. Hein. Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la grâce pour tous. Je pense qu'un politicien moderne, il aurait profité de cela pour éliminer tous ses adversaires. Eh oui, mais lui, il n'est pas comme ça. Et quelle différence entre un homme de Dieu, véritable, et même ceux qui se disent hommes de Dieu qui ne le sont pas, et en tout cas, le commun des mortels. Donc, il y a, oui, des leçons importantes de la vie à apprendre et à retirer de cela. Premièrement, nous aurons souvent affaire à des impossibilités. Il y en aura. Et des choses humainement impossibles. Nebuchadnezzar, en demandant à ses sages de leur révéler ce que lui avait rêvé, hein, dites-moi ce que j'ai rêvé, quelque part, c'était impossible. Et mettez-vous à la place de ceux qui, justement, se disaient sages, devins, hein, qui étaient capables de conduire le roi vers son destin. Alors oui. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un passe par ce moment, par une crise où il dit « mais c'était impossible ». Je ne sais pas, mais c'est possible. Hein. Nous rencontrons et nous rencontrerons encore des situations impossibles où il faudra quelqu'un de plus grand que nous pour nous aider. Et bon, on sait qui est le plus grand. Hein. Qui c'est le plus grand? Il est là-haut, hein. Mais il est ici aussi. Hein. C'est le Seigneur. Hein. Amen. Heureusement que nous l'avons. Alors, dans Marc, chapitre 10, verset 17, ne cherchez pas, vous lirez chez vous jusqu'au verset 23. Il y a un épisode particulier. Est-ce que le jeune homme riche, ça vous dit quelque chose? Eh oui, cette histoire, elle est pas mal. Hein, eh oui. C'est pas que Dieu demande à ce qu'on soit pas riche. Hein, pas du tout. Hein, parce que lui, il veut nous enrichir. Mais faire passer les richesses ou notre confort ou ces choses avant Dieu, ça, c'est pas bon. Hein. Donc, il va lui demander ce qu'il devait faire pour hériter du salut. Hein, comment dois-je faire pour hériter du salut de la vie éternelle? Alors, il avance et il avait des arguments. Hein. Il pouvait plaider pour lui. Hein. Et il dit que, justement, eh bien, il pratiquait les commandements de Dieu depuis sa tendre enfance. Vous voyez, donc, il avait des arguments. Et quelque part, si tu regardes un petit peu qui je suis, dis-moi et je ferai. Ouais, il était prêt à faire, bien sûr. Mais voilà que Jésus va lui dire de se séparer justement de tous ses biens, de toute sa richesse, hein, de le distribuer aux pauvres et de le suivre. Quelque part, tout ce qui te sécurise, allez, tu l'abandonnes et tu viens me faire confiance, tu vas me suivre. Et il nous a dit qu'il est parti comment? Tout joyeux? Alléluia! Non, il est parti tout triste. Il est parti tout triste, eh oui! Alors les disciples ont été étonnés. Ils vont demander à Jésus, mais alors qui peut être sauvé si lui ne peut pas l'être? Il est riche, donc c'est que Dieu est certainement pour lui. Il obéit au commandement depuis tout petit. Il a compris qu'il fallait qu'il recherche quelque part eh bien, le chemin pour trouver la vie éternelle. Il vient te voir. Il a tout compris. Et là, le Seigneur lui a dit, sépare-toi de tout ça, et quand tu n'auras plus rien, c'est là que tu entreras dans le chemin de la vie éternelle. Alors, les disciples disaient, mais si c'est impossible, même à lui, alors, qui peut être sauvé? Et Jésus répond, il les regarde et il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible. Amen. J'aime bien vous regarder. Alléluia, vous attendez la suite. Hein? Alors, à chaque fois que vous voyez, par exemple, le mot impossible ou l'impossibilité, ou alors que vous n'arrivez pas à comprendre et la situation vous dépasse, ne soyez pas résigné. Ne soyez pas résigné. Dites, c'est toujours pareil, ça va être encore pour lui. Et moi ? Eh oui, non. Dites, voilà, il y a là une occasion pour Dieu de faire quelque chose, justement, en moi, mais aussi à travers moi, qui normalement est humainement impossible. Amen. Si on était capable de faire des miracles, on n'aurait pas besoin de Dieu. Croyez pas? Mais comme on n'est pas capable de faire des miracles, Dieu nous dit, moi je suis là. C'est de moi dont tu as besoin. Cette situation qui te dépasse, ou quelque part, tu es en train de perdre pied, stop, arrête-toi, pose-toi, lève les yeux. Amen. Parce que moi, je suis là. Alors, un homme de Dieu le croit tellement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé le mot « impossible » de son dictionnaire. Il a gratté, il a fait un trou. « Impossible », ça n'existe plus. Alors, quelqu'un va lui dire « Mais quelles sont les implications de tout cela ?» Il va répondre, je ne sais pas, parce que le mot implication, il se trouve justement derrière le mot impossible au dos. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? Oui. Eh oui, eh oui. Alors impossible pour Dieu, ça n'existe pas. Amen. Le mot implication, il lui revient. Parce que Dieu s'implique dans nos vies. Vous saisissez? Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser comme ça. Allez, vas-y, débrouille-toi. Au contraire, il nous a sauvés pour nous avoir sous sa coupe, pour nous entourer, quand il le faut, d'une haie de protection immense, infranchissable, une muraille face à l'ennemi. Et puis quand, quelquefois, il permet que l'ennemi vienne pour, vous savez, nous griffer un peu, là, ou nous titiller, ou nous pincer. Seigneur, il dit, allez, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas essayer de t'en sortir tout seul? Ou alors tu vas faire appel à moi? Tu vas tourner les regards vers moi? Tu vas te souvenir que je suis là, hein, comme les disciples dans la barque. Il a fallu du temps pour qu'ils comprennent qu'ils étaient en train de couler. Pour réveiller Jésus. Et lui dire, Seigneur, tu t'inquiètes pas, on est en train de périr. Au fait, entre guillemets, ou entre parenthèses, il y avait là les prémices de l'Église dans la barque. Jésus et les disciples, la première Église, était en train de couler, de sombrer. Le Seigneur n'a pas permis. Puisque lui, il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Ça a dû surprendre quand même ces gens de métier, hein, n'empêche. Hein. Parce que le vent il s'arrête instantanément et la mer se calme instantanément, là, chapeau. Hein. Eh oui, ben ça, c'est Dieu. Hein. Alors, ce qui est important de réaliser, c'est cela. Quand vous êtes confronté à une situation impossible, eh bien, réalisez qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est la première chose qu'il nous faut retenir. La deuxième, c'est que les situations difficiles nous impose, et j'y reviens, de nous appuyer sur Dieu seul. Pas une béquille plus Dieu. Vous voyez, quelquefois, on est comme ça, non? On va s'apitoyer sur l'épaule de quelqu'un, on va chercher le secours, on va demander. Et puis après, on dit, Seigneur, tu m'entends? Alors, ce qui est important, c'est de, Seigneur, j'ai choisi de te faire confiance, de m'appuyer sur toi. C'est sur toi que je vais compter. Amen. Ne croyez pas que Dieu ne vous a pas entendu. Est-ce que vous avez déjà vu ce film Bruce Tout-Puissant? Hein? Oui, avec Jim Carrey. Bruce Tout-Puissant. Vous voyez un petit peu toutes les prières qui y arrivent. Il dit oui à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Il y en a un qui voulait la pluie, le voisin à côté voulait le soleil. Et puis, la loterie nationale. Tout le monde voulait gagner. Mais il a fait gagner tout le monde. Je crois qu'ils ont même 1 000 000 $ chacun. Mais vous voyez un petit peu. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Mais je trouve qu'il est bien tourné ce film parce qu'il nous montre. Il nous montre justement sans Dieu ce que serait la société. Mais avec Dieu, c'est tout à fait autre chose. Hein. Amen. Alors certains disent, Dieu ne vous mettra pas sur les épaules un poids que vous ne pourrez porter. Ça rejoint un petit peu ce que dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, où il dit au chapitre 1, verset 8, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Pour eux, ils étaient peut-être passés par la mort. Mais ils savaient une chose, c'est que Dieu ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen. L'arrêt de mort avait été prononcé pour Daniel et ses compagnons. Et il s'est appuyé sur le Seigneur lui seul. Amen. Il n'est pas allé dire à quelqu'un, va parler au conseiller du roi pour lui dire que... Non, pas du tout. Il s'est adressé directement à Dieu. Et quand vous avez besoin de sagesse, priez, demandez-la. Quand vous voulez l'intelligence sur une certaine situation, demandez au Seigneur. Parce qu'il faut s'adresser à Dieu, s'adresser à Jésus, son Fils. Jésus est appelé dans le livre d'Ésaïe, et chapitre 9, le divin conseiller. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Nos présidents, nos ministres, les grands de ce monde ont des conseillers. Mais nous, nous avons le plus grand des conseillers. Amen. Le divin conseiller. Il faut prier d'une manière précise, spécifique. Il faut le faire avec persistance, il faut prier avec foi, parce que celui qui doute, qui s'attend de ne pas recevoir, mais avec foi, oui Seigneur, tu l'as dit. Ou alors montre-moi, mais sinon moi je crois, et je m'attends à toi. Amen. Savez-vous que la prière finit par produire la louange et l'action de grâce? Eh oui, Paul dira aux chrétiens de Philippe, Philippiens chapitre 4 verset 6, le Seigneur est proche. Vous rendez compte que le Seigneur est proche? Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Amen! Quel bonheur, hein? La Bible en français courant traduit ce même texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Amen. Bénissez le Seigneur à la fin de votre prière. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur lui-même pour la résurrection de Lazare, vous vous rappelez? Seigneur, je ne te prie pas pour moi, mais je te prie pour eux, parce que moi je sais que tu me réponds toujours. Et je te prie pour eux afin qu'ils croient, qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Hein? Il y a quelques années, il y avait une missionnaire en Afrique, c'est le docteur Hélène Rosewer. Elle raconte l'histoire vraie d'une jeune femme qui un jour, dans son village, va donner naissance à un prématuré. Le problème, c'est que la maman est morte durant l'accouchement. Le bébé donc était prématuré. Aujourd'hui, eh bien, on le sait, moi j'ai vu ma petite fille à l'époque, eh bien, on les met dans une couveuse, au chaud, à la bonne température. Ils sont appareillés, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, même la bouillotte, elle était tellement en mauvais état que ça ne pouvait pas faire l'affaire. Vous voyez, il n'y avait rien. Alors le docteur Oudouer a rassemblé quelques enfants de ce petit village où se trouvait la clinique et elle leur a dit, les garçons, les filles, venez, il nous faut prier. Il nous faut demander à Dieu une bouillotte où ce bébé va mourir. Alors ils ont commencé à prier. Et puis il y avait là une fillette qui a fait cette prière. Cher Seigneur, envoie aujourd'hui une bouillotte. Demain, ce sera trop tard. Parce que le bébé, d'ici là, il sera mort. Alors, Seigneur, envoie aussi une poupée pour sa petite sœur, hein, pour la sœur du bébé. Comme ça, elle se sentira moins seule. Amen. Écoutez bien, c'est authentique, c'est vrai, hein. Donc, le docteur raconte que cet après-midi-là, un colis est arrivé d'Angleterre. Cela venait d'un groupe de femmes chrétiennes qui, 5 mois auparavant, avaient envoyé ce colis. Faut du temps, hein? Et là, quand ils ont ouvert le paquet, tout au-dessus, il y avait une bouillotte. Pas formidable? Et docteur Hélène Roudvert prit la bouillotte, la prépara pour l'utiliser pour ce bébé. Quand elle a remarqué que la fillette qui avait fait cette prière tout à l'heure, eh bien, était en train de farfouiller dans le colis, était en train de sortir tout, de chercher, quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Ce à quoi elle va répondre, la poupée! La poupée! Je sais qu'il doit y avoir une poupée là-dedans. Et voilà que là, au fond du paquet, il y avait une poupée en chiffon que quelqu'un avait déposée. Vous voyez? Être précis est le Seigneur. Une prière précise de foi. Amen. Une jeune fillette aussi préparée pour la pluie parce qu'ils avaient semé, c'est en Afrique toujours. Ils avaient semé, il fallait maintenant la pluie. Sinon, ça ne poussera pas. Et puis, les oiseaux, les animaux, ils vont venir, ils vont récupérer les graines, les semences. Donc, le soir même était organisée une réunion de prière pour que la pluie descende. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est arrivé à la réunion de prière et puis il y a une petite fille qui est arrivée avec un parapluie sur le bras. Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie, toi? Ben, on vient de demander la pluie. Et moi, je prie de quoi m'abriter. Figurez-vous qu'à la fin de la réunion de prière, quand ils sont sortis, la pluie est tombée et elle a ouvert son parapluie. Et elle est partie toute fière. Voyez, c'est comme ça avec le Seigneur. Hein? Amen. Alors, quel que soit votre problème, il y a Dieu qui est au ciel, qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Amen. Je pourrais encore raconter des choses comme ça. Mais la réalité, elle est là. Et ça, c'est le thème du livre de Daniel qui montre qu'il y a un Dieu qui contrôle tout, qui peut tout. Au-delà même des grands rois. Il est tout dessus. Alors vois-tu, quand tu dis « je ne peux pas », lui te dit « ok, ça je le sais, moi je peux. Moi je peux. » Et c'est important que ça s'entre bien là, hein, que ça s'ancre bien, parce que des situations, il s'en présentera. Des situations impossibles. D'accord? On dit « impossible n'est pas français », mais « impossible n'est pas chrétien ». Amen, c'est mieux, hein, parce que ça nous ressemble tellement. Seigneur, je crois. Oui, je crois que tu peux tout. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, verset 27, Jésus dira à Pierre, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et de même, l'ange va dire à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Je ne sais pas comment le dire, mais ça va. Je crois que je l'ai dit quelques fois. Hein. Et oui, rien n'est impossible à Dieu. Puissiez-vous le réaliser, le comprendre, le saisir et l'ancrer bien là et puis plus bas, là aussi dans le cœur. Amen.